SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Medine Zawish, parlez-nous de votre rôle comme président de Don't Panic Team.
Ouais, Don't Panic Team, c'est une association sportive. Moi, je suis le président. C'est essentiellement de la boxe anglaise. Et on agit, on interagit essentiellement dans des quartiers qu'on appelle les quartiers populaires, la banlieue française, dans la région nord-ouest de France, donc le Havre précisément. Et donc moi j'en suis le président, donc j'en suis surtout le porte-parole, le promoteur, celui qui tente de faire connaître les activités de cette association. On fait du sport dans des endroits où il y a criamment besoin de social. Et dire qu'on fait du social, ce serait un pléonasme, parce que dans tous ces endroits où est-ce qu'on a une activité culturelle ou bien sportive, intrinsèquement, il y a une action sociale qui est liée à cette démarche, parce que ces endroits ont tellement besoin d'ouverture culturelle, d'émancipation sportive, que ça en devient tout de suite une action sociale que d'avoir une action différente de celle des institutions. Donc j'en suis le président, mais à côté de ça, je suis un artiste, je suis un rappeur,
un
je
musicien.
Sors des albums là régulièrement, des albums très critiques avec le contexte dans lequel se trouvent les jeunes de France, précisément les jeunes des quartiers populaires, et puis forcément avec toutes les minorités qui composent là ces quartiers populaires. Donc je ne suis en aucun cas un académique, un universitaire. Je n'ai pas de bagage de chercheur. Je n'étudie pas des régularités pour pouvoir produire des chiffres et puis les présenter. J'interviens à cette conférence comme un espèce de témoin de ce qui se passe actuellement en France dans le contexte d'état d'urgence, post-attentat bien sûr, et de rappeler que les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires résistent à ces formes de radicalisme, résistent à ces pressions populistes, résistent à tout ça et dans la grande majorité sont des combattants justement de tous ces maux dont ils sont accusés, dont ils sont amalgamés la plupart du temps. C'est ce pourquoi j'interviens à cette conférence, pour faire un espèce d'état des lieux.
Et comment est-ce que Daesh a changé la donne en France ?
Elle l'a changé sur le plan international, dans la façon d'opérer, avec des outils de communication qui sont très affûtés. Et forcément, ça gangrène toute une jeunesse qui est très en proie à ces outils de communication-là. La France n'y est pas exclue. Je rejoins beaucoup Isabelle sur les causes de tout ceci. C'est précisément les questions qui sont évitées par la classe politique. Aujourd'hui, on ne parle essentiellement que de processus d'individuation chez les jeunes qui n'ont pas abouti, d'une rupture avec la société, mais on ne rentre jamais vraiment dans le détail idéologique de tenter de comprendre qu'est-ce qui à un moment donné a capoté et a fait en sorte qu'on en arrive ici. Quelle est la responsabilité étatique ? Quelle est la responsabilité des différentes classes, même la même médiatique, pour parler très clairement ? Et c'est précisément ces questions-là qu'on évite soigneusement dans les débats à travers le monde et pas qu'en France. Et cette conférence est précisément en rupture avec ces débats un peu bien pensants, et on tente de rentrer dans le vif du sujet et de tailler dans le gras, de comprendre qu'est-ce qui fait les mécanismes, sans chercher à l'excuser. Encore une fois, il y a cette fameuse accusation qui pèse sur tous les interlocuteurs, sur tous les débatteurs de France, qui est d'être dans la culture de l'excuse, de vouloir excuser ce que feraient les potentiels la djihadiste. Non, chercher à comprendre, encore une fois, ne veut pas dire excuser. Chercher à comprendre, c'est tenter de comprendre les mécanismes qui amènent ces jeunes à partir, à les combattre et aller jusqu'à la mort.
Et on imagine que vous êtes optimiste, car c'est à travers votre musique que vous avez la possibilité de sensibiliser les jeunes pour éviter cette radicalisation.
Je vois effectivement le verre à moitié plein, parce que quand d'autres le voient à moitié vide, parce que je crois que les processus d'intégration ont fonctionné. Ils n'ont pas fonctionné comme l'État français l'aurait souhaité. Ils ont fonctionné de façon organique. Il y a un vivre ensemble qui s'est réveillé en France, qui vient des couches populaires, des classes populaires. Par dépit, dans les quartiers populaires, toutes les communautés se fréquentent, vivent ensemble. Différentes religions, des agnostiques et des croyants se fréquentent. Il y a un vivre ensemble par dépit qui s'est installé et qui est devenu organique et qui est en rupture avec toutes les statistiques que l'on peut faire sur les quartiers, sur les ghettos de France, qui visent justement à condamner ces endroits que le Premier ministre français a appelé les endroits perdus de la République, cet apartheid social. Eh bien, je crois l'inverse. Je crois qu'on a réussi. On a réussi le processus d'intégration. Et qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements, il y a des cas qui ont disjoncté, mais ça ne concerne pas que les quartiers. Quand on regarde le profil là, des djihadistes aujourd'hui, eh bien, il est large ce profil. Il y a des gens qui viennent des milieux ruraux, il y a des gens qui viennent d'autres classes sociales. Et c'est bien que le problème n'est pas forcément figé sur une ethnie, une idéologie, qu'il est vraiment répandu à l'échelle nationale par des canaux que l'on laisse proliférer.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.